Alors nous sommes donc dans Ilkhot Avodah Zarah, au chapitre Bet, Halakha Zayin. Oui.
Enfin, question, enfin, là, vous avez cité, il y a un rapport avec la philo et la Torah.
Ouh, c'est un sujet énorme. Bien sûr qu'il y a un rapport. Enfin, quel rapport?
Tout ça, les grands philosophes et la Torah, les grands rabbins.
Oui, j'ai compris la question. Maintenant, il faut bien comprendre. Le rapport entre la philosophie et la Torah est un rapport compliqué.
Ouais.
D'accord, voilà.
C'est ça la réponse.
Non, comme c'est compliqué, ça demande des développements énormes qui ne sont pas le sujet de l'étude actuelle, c'est tout. On peut en parler une autre fois, mais là, voilà, c'est tout. Très bien, très bien. Donc, où en étais-je ? Donc nous sommes dans la Zayim, Yom HaKippurim, le jour de l'expiation. Huzman Teshuvah, la colle, c'est le temps de la Teshuvah pour tous. La Yachid Velarabim, pour l'individu et pour la multitude. Alors, j'ai pas compris. Le mot la colle, ça veut dire pour tous. Et après il nous dit pour l'individu et la multitude. Il se répète. À moins que le mot « col » ne veut pas dire la multitude. Mais la « col », ça veut dire la collectivité. C'est-à-dire, il y aurait comme... Qu'est-ce qui se passe? Tu ne trouves pas? Il chote teshuva. Amène le livre, je prends ça. On perd du temps. Voilà, prends, voilà, là, à la Hazaï, tu y es, là, voilà, tu veux prendre le livre. Et donc le mot kol signifie la collectivité prise comme une seule entité. C'est-à-dire ce qu'on avait vu ce matin, comme quoi la teshuva collective est une teshuva cosmique. C'est dans le cosmos que se produit la teshuva, et alors ça a des conséquences au niveau de l'individu et de la multitude. D'accord? Mais ça commence par kol, par l'ensemble. Est-ce que ça correspond tout à fait aux idées du Rambam? Je suis pas sûr. Vehu ketz mechila uslicha le Israël. Il est la fin du pardon pour Israël. La chen chayavin akol la'asot teshuva olidvadot biyom haKippurim. C'est pour cela que tous doivent faire teshuva et le vidouille le jour de Kippour. C'est-à-dire que la teshuva en principe n'a rien à voir avec le jour de Kippour. Si je transgresse une loi de la Torah, à quelque moment que ce soit de l'année, je dois faire teshuva à ce moment-là. D'accord? Ça n'a rien à voir avec le jour de Kippour. Seulement, il y a ce qu'on appelle également le jour de la teshuva collective, qui fait que même si j'ai fait teshuva pendant l'année, le jour de Kippour, c'est une solidarité de toute la nation d'Israël. Tous font teshuva ensemble. D'accord? Donc on fait teshuva. Il le dit, c'est pour les enfants d'Israël. Et les goïms, quand est-ce qu'ils font teshuva?
Ils n'ont pas besoin.
Ils n'ont pas besoin? Ils n'ont pas de péché, les goïms?
Ils ont, mais pas aussi...
Pas aussi grave. C'est-à-dire, il n'y a pas d'assassin, il n'y a pas de violeur, il n'y a pas...
Ils n'ont pas l'obligation...
Ils ont le droit de tuer? Ils n'ont pas les mêmes obligations, mais est-ce qu'ils ont le droit de faire des péchés qui leur sont interdits?
Non.
Par définition, non.
Les sept
lois de Noachide, par exemple, etc. On demande un minimum de moralité, je pense, à l'ensemble de l'humanité. Donc, quand est-ce que eux font teshuva?
Mais déjà, peut-être qu'il faut qu'ils le connaissent tous, peut-être qu'il y a certaines de ces fois qu'ils ne connaissent pas.
Mais je parle de ceux qui connaissent.
Mais, de moi, les Seigneurs.
Hein?
Enfin, c'est personnel, mais je trouve que c'est un peu bizarre, comme principe, parce que du coup, si ils les appliquent parce que c'est les sept lois noachides,
oui. Ça, c'est un autre problème. Disons comme ça, cette question m'a été souvent posée. La réponse est que j'en sais rien. C'est-à-dire que le fait est qu'il y a des non-juifs qui croient en la Torah, qui ne veulent pas se convertir. Comment expliquer cela sur le plan sociologique, sur le plan philosophique, etc. Je m'en fiche pas mal. Le fait est là. D'accord? Bon. Une fois, je me rappelle, une Indonésienne m'avait demandé qu'est-ce que c'était que de devenir Noachide. Alors, je lui ai expliqué. Et elle m'a dit, j'ai compris. Ça veut dire appartenir à la sainteté de l'extérieur. Bon, ça se tient. Alors, c'est, disons que pour nous autres juifs, ça nous semble un peu bizarre. Mais le fait est là. J'ai demandé une fois à un Noachide de Rotterdam. Je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu ne te convertis pas au judaïsme? Il m'a dit, parce que je suis hollandais. Il se sent hollandais, il n'a pas besoin de se sentir juif. Mais il croit en la Torah. Bon, en tout cas, ma question est la suivante. Comment se fait la capara, l'expiation des péchés des goyim?
Hein? Excuse-moi, moi je sais que le prêtre gadol, il faisait pour le monde entier.
Non, c'est pas écrit ça justement. Le Rambam, il te dit ici qu'il fait ça pour Israël. D'ailleurs, dans la Torah aussi, le Kohen Gadol, il fait ça pour tout Israël. C'est écrit en toutes lettres. Alors,
c'est pas sur le moment quand il pêche et qu'après, bah, du coup, bah, il va au tribunal.
Le tribunal sanctionne, c'est autre chose. Je parle de la teshuvah. On sanctionne même s'il n'y a pas de teshuvah.
Oui, mais en fait, justement, bah, ils vont sanctionner et après, à cause de la sanction, il va se rendre compte. La sanction sert aussi à...
Non, ma question, vous n'avez pas compris ma question. Ma question est à propos du temps. Le Rambam nous dit qu'il y a un temps pour l'expiation des péchés d'Israël. Y a-t-il un temps pour l'expiation des péchés des nations?
Hein?
Soukot, voilà, très bien, il a trouvé la réponse. À Kippour, c'est pour Israël, Soukot, c'est pour les nations. C'est tout. Bon, maintenant, oui, il y a 70 taureaux qui sont présentés dans le Beth Amikdash pour faire l'expiation des 70 nations, oui. Ah, c'est très embêtant aujourd'hui. Il n'y a pas de Beth Amikdash. La Gemara nous dit, si les Goyim savaient à quel point le Mikdash leur est utile, ils amèneraient des armées pour le protéger. D'accord? Bon. Donc, tout le monde fait Teshuvah, Kippour. Très bien. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce matin, on avait évoqué l'opinion des kabbalistes, comme quoi il y a une Teshuvah également à Hoshana Rabba. N'est-ce pas? D'où est-ce que les kabbalistes ont été chercher tout ça? C'est pas écrit dans la Gemara que c'est un jour d'expiation. Bien qu'il y ait des allusions. Mais si vous regardez la liste des sacrifices de chacun des jours de fête, n'est-ce pas, dans la paracha de Pinchas, il y a là-bas tous les sacrifices de Moussaf que l'on amène le jour du Shabbat, Rosh Chodesh, Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. D'accord? Vous connaissez la liste? Dans le livre de Bamidbar, il y a tout un texte de la Torah, deux longs chapitres, dans lesquels vous avez la liste des sacrifices présentés lors des fêtes. Alors, allons très rapidement, et on va éliminer quelques détails. Le jour de Rosh Chodesh, on amène deux taureaux, un bélier, sept moutons, un bouc. Vous vous rappelez? Deux taureaux, un bélier, sept moutons, un bouc. Les sept jours de Pessah, la même chose. Chacun des sept jours, deux taureaux, un bélier, sept moutons, un bouc. Shavuot, la même chose. La même chose. Bien que dans la paracha de Hémor, il y a encore un ajout, pour l'instant je vous en fais grâce. Le jour de Rosh Hashanah, à part le sacrifice de Rosh Chodesh, puisque Rosh Hashanah tombe toujours à Rosh Chodesh. Non, un taureau, un bélier, sept moutons et un bouc. D'accord? Donc je sais pas, vous avez remarqué, il y a un taureau de moins, le jour de Rosh Hashanah. Quel est le moussaf de Kippour? Un taureau, un bélier, sept moutons et un bouc. C'est comme à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, Kippour, le même sacrifice. Qu'est-ce qui se passe à Sukkot? Le premier jour, on amène 13 taureaux, 2 béliers, 14 moutons et un bouc. Ça, c'est le premier jour de Sukkot. Deuxième jour, 12 taureaux, et le reste, la même chose. Le troisième jour, 10, 9, 8, 7. Le septième jour de Sukkot, donc vous avez 7 taureaux, 2 béliers, 14 moutons et un bouc. Ce qui fait combien de taureaux ensemble? 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. 70 taureaux, pour les 70 nations de la Terre. Le huitième jour de Sukkot, qu'on appelle aujourd'hui Simchat Torah, quel est le moussaf? C'est là la surprise. Un taureau, un bélier, sept moutons et un bouc. Comme à Rosh Hashanah et Kippour. Ce qui veut dire qu'il y a un rapport entre Rosh Hashanah, Kippour et Simchat Torah. C'est le même type de fête. Vous avez compris? Donc, si Rosh Hashanah et Kippour sont destinés à la Teshuvah, ça veut donc dire que le jour de Simchat Torah aussi. Or, le jour de Hoshana Rabba, dont nous avons parlé ce matin, c'est la veille de Simchat Torah. C'est comme si on se préparait à Simchat Torah. Mais en fait, vous avez trois formes de Teshuvah. Une Teshuvah qui ressemble à Rosh Hashanah, une à Kippour et une à Simchat Torah. Maintenant, la question qui se pose avant de continuer, c'est pourquoi est-ce que la clim ne marche pas? On va cuire. Hein? Mais on s'en fiche qu'elle soit en minuscule, elle devrait marcher. On peut supprimer la minuterie. C'est incroyable. Est-ce que tu veux un tabouret pour arriver? C'est pas la peine. Non, il suffit de. C'est pas la peine de sortir ça. Il faut simplement. Il faut ça. Non, il y a un petit machin. Il y a un petit bouton rouge comme ça qu'il faut relever. Ah, on va tout lui expliquer. Est-ce que ça marche?
Non, c'est simple, petit loquet rouge. En bas à droite. Là, à côté de l'horloge.
Ah, non, c'est lui.
Ça marche? Non.
Là, on va le bouton.
Là, tu
Non, il faut le lever dans l'autre sens. Complètement, jusqu'au bout. Oui, très bien, et maintenant ça doit marcher. Ah, voilà. Voilà. Ça marche. Voilà, nous sommes sauvés de la cuisson. Bon, on peut continuer? Donc, c'est quoi les trois formes de Teshuvah? Rabbi Yehuda Halevi, dans son Kuzari, explique qu'il y a trois manières de servir Dieu. Par amour, par crainte et par joie. Et donc, ça veut dire qu'il y a trois formes de Teshuvah. Une Teshuvah par amour, une Teshuvah par crainte et une Teshuvah par joie. La Teshuvah par amour, c'est à Rosh Hashanah. Par crainte à Kippour et par joie à Simchat Torah. Et ça correspond à trois formes différentes du Yetzer Hara. Il y a un Yetzer Hara qui est de faire du mal à son prochain. Quand on fait du mal à son prochain, c'est parce qu'on manque d'amour. Il y a un Yetzer Hara qui consiste à faire du mal envers Dieu. C'est parce qu'il y a un manque de crainte. Et ça, c'est ce qu'on fait à Kippour. Et il y a un Yetzera qui est de faire du mal envers soi-même. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas assez de joie. C'est quoi les trois formes de maximum, disons, extrême de ces trois tendances? Le manque d'amour se traduit par le meurtre. C'est la pire des choses qu'on puisse faire à son prochain, c'est de le tuer. D'accord? Et la relation envers Dieu, qui est détérioré, la pire des choses, c'est l'idolâtrie. Et la troisième forme de Yetzer Hara, c'est Gilui Arayot, c'est-à-dire l'immoralité sexuelle. Et ces trois défauts peuvent être réparés par ces trois éléments qui sont l'amour, la crainte et la joie. Donc ça explique pourquoi est-ce que les kabbalistes ont raison de dire que Hoshana Rabba est un jour de Teshuvah. Oui. Par exemple, l'inceste.
Ah oui.
Oui, par exemple. Oui. Et donc, c'est ça dont il est question. Maintenant, je reviens ici au Rambam. Une fois qu'on vous a fait un tour du côté des fêtes, etc., on revient dans le Rambam. « Umitzvat vidou yom ha-kippourim » Le commandement de faire le vidouï de Kippour, « Shiatril » Il faut commencer, le premier vidouï, « Me'erev ayom » C'est-à-dire de la veille. du jour de Kippour, c'est combien en Tishri? Si Kippour c'est le 10, la veille c'est quoi?
9.
Donc le 9 Tishri, Kodem Sheyochal, avant de manger. C'est-à-dire, on prend un repas avant le jeûne, il faut avoir fait le vidouille avant le repas. On le fait effectivement dans la prière de Mincha, veille de Kippour, on fait le vidouille de Kippour, n'est-ce pas? Avant le repas. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça avant le repas? Alors là, tenez-vous bien, Shema Yehannek Basirouda Kodem Sheyidvade, de peur qu'il ne s'étouffe dans le repas avant de faire le vidouille. C'est dommage de mourir sans avoir fait le vidouille. Alors, comme il risque de s'étouffer, de s'étrangler, alors on dit, fais le vidouille, après tu manges. Tu peux t'étouffer maintenant. D'accord? Ça vous semble logique, ça? Hein?
Sinon, on va faire le vidouille avant chaque repas.
On va faire le vidouille avant chaque repas. D'accord. Et, or, on fait pas vidouille avant chaque repas. Et puis, à part ça, vous avez déjà vu des gens qui s'étouffent à cause du repas d'avant le jeûne, vous? Oui, d'abord parce qu'il y a une mitzvah particulière de manger la veille de Kippour, c'est vrai. Et puis il y a l'émotion. Maintenant, combien de personnes sur 1 million s'étouffent de ce repas? Hein? Une personne sur 1 million. Est-ce qu'on va faire une halakha pour un cas tellement rare? En général, on ne fait pas. Hein? Oui, justement, il n'a pas cours. Tandis que là, c'est une halakha. Il faut absolument avoir fait le vidouille avant de manger, parce qu'il y en a un sur 1 million qui s'étouffe la veille de Kippour. La réponse est très simple, c'est que ça vient nous dire que si on prenait ça au sérieux, on s'étoufferait. On s'étoufferait d'émotion. C'est ça le truc. Bon. Shema Yichanegvon. Vafalpi sheitvada kodem sheachal. Et bien qu'on ait fait le vidouille avant de manger, hozer umi. Choser ou mitvade, belele yom kippourim arvit. On refait le vidouille le soir de Kippour. Effectivement, dans les prières de arvit de Kippour, vous avez un long vidouille. Vafalpi sheitvada ou mitvade, vechoser ou mitvade bechacharit. Et il refait le vidouille le matin, ouve moussaf, lors de la prière de moussaf, ouve mincha, un mincha, ou vanaïla, lors de la dernière prière de clôture. Vechan mitvade, où est-ce qu'on fait le vidouille? Yachid achar tefilato, l'individu fait le vidouille après la tefila, c'est-à-dire après le shmoneh esrei, enfin, pas le shmoneh esrei, c'est la amida, après la amida, en fin de amida, avant de bouger de sa place, on fait le alchet, n'est-ce pas? Et le vidouille. Veshaliar tzibur, par contre, le ministre officiant, comme on dit en français, be'emtsa tefilato, au milieu de sa prière, bivracha revit, dans la quatrième bénédiction. Combien de bénédictions il y a dans la Amida?
8.
À Kippour? 7. 7. Donc la quatrième est au milieu. D'accord? D'accord? Et c'est là qu'on fait le vidouille. Maintenant, j'ai pas compris. Pourquoi faire le vidouille tellement de fois? J'ai fait une fois, ça y est, c'est fini. J'ai achevé ma teshuva. Pourquoi est-ce que, pour le même péché d'ailleurs, si j'ai fait un péché sur lequel je veux faire mon vidouille pendant Kippour, je le fais 5 fois. Et si je suis Shaliar Tzibour, je le fais 10 fois. Pourquoi? Parce que, vous avez compris la question? Hein, la question est claire? La réponse, c'est parce que je ne suis pas le même. Le soir, le matin, à Moussaf, Mincha et Neila. Je suis une autre personne. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est toujours, il y a, disons, une suite de l'identité. Mais, la raison pour laquelle on fait plusieurs prières par jour, c'est parce que on aborde le monde différemment quand on est le matin, l'après-midi ou le soir. Je ne suis pas le même. Et donc, mon péché n'est pas le même aussi. C'est-à-dire, je suis un pécheur de matin, ou un pêcheur d'après-midi, ou de soir, c'est pas la même chose. Oui.
Pourquoi ne pas le faire tout simplement une fois et que ça s'enlève une fois?
Ah, très bien. C'est parce que je suis fait de plusieurs choses. Je suis fait d'un matin, d'un après-midi, d'un soir. Je suis plusieurs personnes à la fois. Et donc, mon péché n'est pas le même le matin, l'après-midi ou le soir.
C'est trois facettes qu'il faut
Oui, ou les cinq, d'après ce qu'il dit ici. D'accord, voilà. Qu'est-ce que je ressens le matin? Le matin, je ressens la bonté divine. C'est-à-dire, j'ai reçu la vie en cadeau. C'est le chesed. D'accord? Bonté divine, comme on dit. J'ai reçu la vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour la recevoir? La réponse est rien. Mais l'après-midi, on me demande des comptes. Est-ce que tes actions pendant la journée justifient le cadeau que tu as reçu le matin? Et donc, c'est le moment de la midat hadin, de la rigueur, etc. D'accord? Bon. Ah, le soir, c'est tout à fait autre chose. Parce que la vie en pleine journée, c'est la vie sociale. Quand il fait jour, j'ai un commerce avec d'autres personnes. Dans l'obscurité, je suis seul avec moi-même. Je suis un individu. D'accord? On passe à la halakhachet? Allez, on y va. Bon. Avidouille, shenahagou bo kol Israël. Le vidouille qui est en usage dans tout Israël. Aval hatanu vegomer, mais nous avons péché, etc. Le problème de ce etc., c'est que le Rambam a probablement écrit un vidouille entier. N'est-ce pas? Simplement, les imprimeurs ou les copistes n'ont pas jugé nécessaire de recopier le vidouille du Rambam, ce qui fait que nous n'avons que les premiers mots. C'est embêtant, ça. Bon. Enfin, dans le Marzor, vous avez un vidouille. Veoui kara vidouille, c'est l'essentiel du vidouille. Maintenant, vous avez une halakha surprenante. Averot sheidvada alehem biyom kippourim ze, choser umidvada alehem biyom kippourim acher, afalpi shuomet bitshuvato. Les péchés pour qu'il a avoué en ce jour de Kippour, il doit à nouveau, il peut à nouveau les mentionner dans le vidouille d'un autre Kippour, bien qu'il soit toujours dans sa teshuvah. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, qui pécha yani eda, je connais mes péchés, vechatati negdi tamid, ma faute reste devant moi toujours. C'est bizarre. Si la teshuvah c'est efficace, donc j'ai fait teshuvah. Alors pourquoi est-ce qu'on me demande à nouveau de refaire le vidouille? À part ça, le Rambam ne dit pas que c'est obligatoire, mais il dit que ça peut se faire. Parce qu'effectivement, on pourrait dire, si j'ai fait teshuvah une fois, il serait inutile de répéter le péché que j'ai fait il y a 10 ans, puisque j'ai déjà fait teshuvah. Alors pourquoi est-ce qu'il faut quand même refaire le vidouille? Ou en tout cas, c'est recommandé. On l'a mal fait. Et si je l'ai bien fait? Ah, pour que le Yetzera se... Ouais. Ouais, ça se tient. Je veux bien. Comme le Rambam ne donne pas de réponse, on peut proposer toutes les réponses. Moi, je pense à autre chose. Il y a ce qu'on raconte dans le Or Zaroua, un des balais à Tosfot, il raconte une histoire à propos de Rabbi Saadia Gaon. Est-ce que cette histoire est vraie ou pas? J'en sais rien. Mais l'histoire est intéressante. On raconte que Rav Saadia Gaon, vous savez qui c'est Rav Saadia Gaon? Non? Rav Saadia Gaon, c'était un Rav. Bon. À part ça, comme son nom finit par Gaon, ça veut dire qu'il faisait partie des Géonim. C'est quoi les Géonim? C'est quoi? C'est une des époques, la transmission de la Torah, c'est entre l'année 650 à l'année 1050, ce qui vous donne 400 ans à peu près. D'accord? C'est l'époque où toute la Torah est concentrée dans quelques yeshivot, 2 en Babylonie et 1 en Eretz Israël, donc il y a 3 yeshivot qui concentrent en elles toute l'autorité toranique de l'époque, pendant 400 ans. Un des grands maîtres de cette époque s'appelle Rav Saadia Gaon. On raconte qu'un jour, Rav Saadia Gaon arrive dans un endroit où on ne le connaissait pas, mais on a vu que c'était quand même un personnage respectable, il avait une allure rabbinique, et donc il se fait inviter pour le repas de Shabbat chez un des habitants du lieu, qui le respecte, etc. Le lendemain matin, lors de la prière, quelqu'un reconnaît Rav Sadia Gaon. Il dit « Ah, c'est lui !» Alors arrive son hôte et il lui demande pardon. Il dit « Pourquoi tu me demandes pardon ?»« Parce que si j'avais su que tu n'étais pas simplement un rabbin, mais que tu es le plus grand rabbin de la génération, je t'aurais fait plus d'honneur. » Bon, ça c'est la première histoire. On raconte qu'après cette histoire, on a vu Rav Sadia Gaon se rouler dans la neige pour expier ses péchés. Pourquoi avait-il besoin de se rouler dans la neige? Parce qu'il a dit, quand j'ai fait un péché, c'était contre Dieu. Mais Dieu tel que je le comprenais à l'époque. Mais une fois que j'ai fait teshuvah, je le connais mieux. Et donc le péché devient plus grave. Donc je dois faire une teshuvah encore plus grande. Et donc ça n'a pas de fin. Donc il fait une teshuvah gigantesque par rapport à sa nouvelle connaissance. Alors ça expliquerait peut-être pourquoi il faudrait rappeler le péché. Mais alors, dans ce cas-là, on n'en finit plus. Ça devient terrible. C'est-à-dire, on préfère peut-être pas faire teshuvah si c'est déjà comme ça. D'accord? À moins de comprendre ça comme le Rav Kook. Oui, dans Orot HaTshuvah, chapitre Zayin, au paragraphe Zayin, tout s'explique. N'est-ce pas? Et donc, ça règle le problème. Ah, il dit quoi le Rav Kook? Ben, t'as qu'à demander à tes copains, puisqu'ils n'ont pas demandé eux. C'est donc c'est qu'ils savent. Oui. Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il dit le Rav Kook? Vous avez ici Orot HaTshuvah par hasard? L'édition jaune. Il y en a un là? Ah oui, il y a, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut. Voilà, très bien. Orot HaTshuvah dans l'édition jaune. Pourquoi dans cette édition-là? Parce qu'il y a là-bas des textes qui n'apparaissent pas dans l'édition blanche. Et là, c'est un d'entre eux. Je lis donc dans Zayin Zayin. Le'ha'amik arbe tzrichim bi'isod ha'teshuvah. Il faut beaucoup approfondir le fondement de la teshuvah. C'est-à-dire comprendre. Ad she'ora ya'ir kolkar, jusqu'à ce que sa lumière illumine tant, ad she'zichron kolchet, au point que le souvenir de tout péché, yehorerbo, éveillera en lui, regesh, un sentiment, simcha atsuma, de joie puissante. C'est-à-dire, si la teshuvah est complète, quand je me souviens de mes péchés, j'entre dans la joie. Pourquoi? Mipnei ha'yedia she'lazechut ha'gdola she'mi'ira bahem al'yedei kedushat ha'teshuvah. À cause de la connaissance du grand mérite qui les illumine, qui illumine donc les péchés, qui illumine les péchés, par le biais, par le biais de la sainteté de la teshuvah, She'ior Hashem apoel b'tikun ha'olam, qui est la lumière de Dieu qui agit pour la réparation du monde, Yesod Aberia, fondement de la création. Ça veut dire, si j'ai fait une teshuvah véritable, je suis heureux à chaque fois que je me souviens de mes péchés, parce que la teshuvah a transformé les péchés en quelque chose d'absolument sublime, qui fait partie de l'ordre du monde. D'accord? Oui.
Précédemment, vous avez dit également que quand il y avait trois catégories de mitzvah qu'il fallait régler, et qu'il y en avait une qui justement était la joie. Est-ce qu'on parle de la
joie? Non. La première joie dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la joie pour faire teshuvah. Là, c'est la joie qui est consécutive à la teshuvah.
Ça veut dire concrètement que du moment où je suis joyeux, où je suis pleinement joyeux de mon acte, alors ma teshuvah est réalisée.
C'est la preuve que la teshuvah est réalisée. C'est un symptôme. Ah bien, parce que on comprend, plus on fait teshuvah, plus on comprend ce que dit la Gemara, qui est que quand on fait teshuvah par amour, alors les péchés deviennent des mérites. Ça veut dire, non seulement les péchés sont effacés, mais ils sont considérés comme un mérite. Maintenant, comment comprendre ça? Ça, c'est toute une théologie dont le Rambam ne parle pas, mais dont le Rav Kook parle dans le chapitre 16. d'accord, de Orot à Teshuvah. Peut-être qu'à une occasion, on en parlera. D'accord? On peut continuer? Bon. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut se souvenir des péchés. Selon l'enseignement du Rav Kook, c'est pas du tout pénible, au contraire. Peut-être. Quoi?
Qu'est-ce
que tu comprends pas?
Je faute, je peux faire tu vois, j'ai le souvenir de ma faute, et je dois être joyeux de cette faute.
Oui, c'est quand, dans l'achèvement total de la Teshuva, oui.
C'est ça. On n'est pas joyeux d'avoir péché, on est joyeux de pouvoir comprendre que maintenant, on peut éventuellement les pardonner ou intercéder pour des personnes qui n'ont pas encore pris conscience.
Très beau discours, mais c'est pas ça qu'il dit. Rav Kook dit expressément, quand je fais Teshuvah, je suis content de la faute. Je vais vous donner un exemple biblique. Les frères de Yosef ont vendu Yosef. C'est très mauvais de vendre son frère, je crois. N'est-ce pas? C'est très condamnable de vendre son frère. N'est-ce pas? Mais une fois qu'ils ont fait Teshuvah, ils ont compris comment cette vente s'insère dans la réparation du monde. Commence à sauver le monde de la famine. Et donc, rétroactivement, ils se disent, c'est dommage qu'on n'a pas fait un Lechem Yichud avant de vendre Yosef.
Dans ce cas-là, chacun de mes actes, soit bon ou mauvais, je peux vous dire, bah, dans ce cas-là, je fais cet acte pas bien, je suis cette personne, ça s'inscrit dans, dans la règle du temps et c'est bien.
Oui, c'est ce qu'on pourrait penser.
Et je ne vais pas être heureux de ça.
C'est pour ça qu'il faut lire le 16e chapitre. Là, j'ai lu dans le 7e, dans le 16e, paragraphe Aleph et Chad, là-bas, tout est expliqué. Mais comme c'est très compliqué, alors pour l'instant, on va pas l'étudier. Peut-être qu'on va en parler à une autre occasion. C'est bien clair? Bon, voilà. Tête. En ateshuva, velo yom kippourim, mechaprim, ela averot sheben adam lamakom. La Teshuva et Yom Kippour n'expliquent que les péchés qui sont entre l'homme et son prochain. Non, pardon, entre l'homme et Dieu. Kegon, Mishachal Davar Asur, quelqu'un qui a mangé un aliment interdit. O Baal Beila Asura, ou qui a eu un commerce sexuel interdit. Vechayotze Bahen, et toutes ces choses-là. Aval averot chez ben adam la chavero, mais les péchés qui sont entre l'homme et son prochain. Kegon, par exemple, chovel ba chavero, celui qui blesse son prochain. O amekalel et chavero, ou qui insulte son prochain. O gozel, ou qui le vole. Vechayotse bahen, et toutes choses de ce genre. Et non imhalo le olam, cela n'est jamais pardonné. Jusqu'à ce qu'il donne à son prochain ce qu'il lui doit, viratsehu, et qu'il le réconcilie. Donc il y a deux choses. Si j'ai volé, par exemple, je dois d'abord payer, je dois également me faire pardonner par la personne à qui j'ai volé, et alors la teshuva et kippour expie. Hein? Non, exactement, ça c'est la suite. Afalpi, Shirzirlo Mamon Shuchayavlo, mais bien qu'il lui ait rendu son dû, Tsarich Liratsoto, il doit le réconcilier, Velishol Mimenu Shimcholo, il lui demandait d'être pardonné, Vafilu Loiknit et Travero, et la bidvarim, et même s'il n'a que blessé son prochain par des paroles, tsarir le faïso, il doit l'apaiser, velifgo abo, et l'implorer, achim chollo, jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Et évidemment, il y a également le vidouille. Ça, il en a dit, il en a parlé plus haut. Lo ratza chavero limchollo. Mais si son prochain ne veut pas lui pardonner, c'est embêtant ça. Mevilo, Shura shel shlosha bene adam mere'av. Il lui amène un groupe de trois de ses amis, ou Fogainbo, et ils intercèdent pour lui, ou mevakshim imenu, ils lui demandent. C'est-à-dire, mon prochain ne veut pas me pardonner, j'amène trois amis de mon prochain, et il lui dit, allez, fais pas ça. L'on y traça la haine, et si ça n'a pas servi, ça n'a pas réussi, mais vilo, shnia ou shlishit, il doit les ramener une deuxième et même une troisième fois. Donc, trois fois, je dois amener des copains pour lui demander pardon. L'oratza. Et si malgré tout, il ne veut pas, il n'a. Manicho veolechlo, il le laisse. Veze shelo machal ou achote. Et c'est celui qui n'a pas pardonné qui est le pécheur. C'est-à-dire, celui qui a demandé pardon a demandé sincèrement. Évidemment, s'il ne demande pas sincèrement ou s'il ne fait pas teshuva, ça sert à rien. Mais si effectivement il a fait teshuva et qu'il est sincère dans sa demande de pardon, et après trois fois, on a fait le nécessaire. C'est vrai dans quel cas? Dans un cas habituel. Vei maya rabo, mais si c'était son maître, oler ouva afilu elef permi asim cholo, il va même mille fois jusqu'à ce qu'il lui pardonne. Bizarre. Pourquoi pour son maître c'est même plus que mille fois ou même plus? Parce que les Chachamim nous ont dit, la crainte de ton maître doit être égale à la crainte du ciel. Mora rabar ke mora shamayim. Et donc, c'est-à-dire que par son maître, il reçoit la vie. Et donc, si il doit se faire pardonner par son maître, il n'y a pas de limite à cette demande. Maintenant, le problème, est-ce que le maître a raison de faire revenir la personne mille fois? La réponse est, ça dépend des cas. La Guémara raconte d'un cas où il y a un maître qui a exagéré. Il s'agit de Rabbi Yehoshua ben Perachia. Rabbi Yehoshua ben Perachia, un des grands maîtres de l'époque du deuxième temple, avait un élève à qui il n'a pas pardonné, qui s'appelait Jésus. Et un jour, il est venu pour se faire pardonner, et Rabbi Yehoshua ben Perachia a dit, si aujourd'hui il vient, je lui pardonne. Et quand il vient, il était en train de faire la lecture du schéma. Et donc, il lui a fait une sorte de signe qui a été interprété par son élève comme un rejet. Et c'est comme ça qu'est né le christianisme, dit la Guémara. Oui.
Mais c'est un Talmid Racham.
Rabbi Yehoshua ben Perachia, oui.
Non, son élève.
C'était un élève, un Talmid de Racham, oui.
Donc, il aurait dû comprendre.
Mais il n'a pas compris. Maintenant, j'ai beaucoup réduit le texte. Le texte est beaucoup plus long là-bas. Il y a beaucoup de détails très importants. Mais en tout cas, je me rappelle, j'ai rencontré il y a quelques mois un groupe de catholiques de France qui m'ont demandé qu'est-ce que la tradition talmudique pense de Jésus. Alors, j'ai pas voulu rentrer trop dans les détails, mais je leur ai dit, c'est un personnage qui disons, diffuse le sentiment d'être rejeté. Effectivement, ça explique quelque chose de très intéressant, assez surprenant, c'est que les chrétiens sont très intéressés à savoir ce que les juifs pensent d'eux. Alors que les juifs s'en fichent pas mal de savoir qu'est-ce que les chrétiens pensent d'eux. Et la raison, c'est parce que le christianisme est né à partir du judaïsme. Tandis que le judaïsme, il a sa vie à soi. Pas besoin du christianisme pour définir le judaïsme. Oui.
C'est dans quel...
C'est dans Sanhédrin. Oui, c'est dans le Perek Chelek, c'est qui est 10e dans la Mishnah, 11e dans la Gemara. C'est à la page couvre quelque chose. D'accord? Ce texte a été censuré dans la plupart des Gemarot, mais à cause de la peur des chrétiens, mais aujourd'hui ça a été réintroduit. Bon. Alakha Yud. Assur la Adam, Shiye Achzari, Veloïd Payes. Il est interdit pour un homme d'être indifférent ou cruel et de ne pas se laisser réconcilier. Et là, il est noir l'irtsod, ve kaché l'ichos. On doit être facile à réconcilier et difficile à se mettre en colère. Ça, c'est dans Maseret Avot. Lorsque le pécheur lui demande de pardonner, et qu'il le fait d'un cœur sincère, et d'une âme conciliante, va filo et tsarlo arbe vechatalo arbe. Et même s'il lui a fait beaucoup de mal, et qu'il a beaucoup péché envers lui, lo yikom velo yitor. Ni il ne se vengera, ni il n'aura rancune. Vezeu darkam shel zera Israël verelibam anachon. Et c'est le comportement des descendants d'Israël et leur cœur droit. Aval hagoyim arle alev. Mais les nations incirconcis de cœur, c'est-à-dire qui ont un cœur dur. Et namken, ils ne se comportent pas comme ça. Ela ve'evrato shamera netzar. Ils gardent leur colère à tout jamais. Vechen omer ala givronim. Et ainsi il est dit à propos des Gabaonites. Les filles chez l'Omachlou Velonit Paisou, parce qu'ils n'ont pas voulu pardonner et qu'ils n'ont pas été réconciliés, le texte dit Vagivonim Lomi Bene Israël Hemma. Les Gabaonites ne sont pas des enfants d'Israël, bien qu'étant juifs d'ailleurs. Ils ont fait un guillot collectif, mais ils ont gardé le comportement des Gabaonites, qui était de ne pas se réconcilier. Et donc le texte des prophètes dit dans le livre de Shmuel, Vagivonim l'obné Israël Emma, c'est pas des juifs ceux-là. D'accord? Oui?
C'est pas que du fait qu'ils s'étaient convertis de fois par peur et par
peur. Peu importe. Mais en tout cas, la halakha est qu'ils étaient des béné Israël. Mais ils ne sont pas d'origine des béné Israël et ils ont pas corrigé leur comportement. Donc ça veut dire que un bon juif est facile à réconcilier. Si la personne demande, fait véritablement teshuva. Par exemple, le christianisme a enseigné qu'il fallait pardonner toujours. La Torah ne dit pas ça. Il faut pardonner s'il y a eu teshuva. Il n'y a pas eu teshuva, pourquoi pardonner? C'est une faiblesse, parce que si on pardonne, même s'il n'y a pas eu teshuva, alors ça veut dire qu'en fait on laisse le monde dans sa bassesse.
Comment c'est cette personne en face de nous, elle a fait une
bêtise? Ben si tu lui as, il faut lui croire, il faut la croire. Yud Alef. Achote la chavero ou mettre chavero. Celui qui pêche envers son prochain et son prochain est mort. Kodem sheivakesh imenu mechila. Avant qu'il ait pu lui demander pardon. Mevi Asara Bene Adam ou Mahamidam al Kivro. Il amène 10 personnes qui se tiennent autour de sa tombe. Veomer Bifnehem, et il dit en leur présence, Khatati Hashem Elohe Israël Veliflonize, j'ai péché envers Hashem, Dieu d'Israël, et envers un tel, Shasitilo Karvekar, car je lui ai fait cela et cela. C'est quoi cette histoire? Pourquoi 10 personnes? D'ailleurs, j'ai assisté une fois à une demande de ce genre. J'étais un jour au cimetière. On me dit, est-ce que tu peux venir compléter un minyan? C'était 2 personnes qui ont demandé pardon à quelqu'un qui était déjà mort de quelque chose qu'il lui avait fait. D'accord? Et maintenant, le problème, pourquoi faire ça?
Pour le mort,
il est mort. D'accord? Un mort est véritablement mort. D'accord? Donc, à qui on demande pardon?
À soi-même.
À soi-même, on se demande pardon. Moi, je me pardonne toujours.
Non, ça veut dire que, pour alléger notre...
Mais à qui je demande pardon? Je demande à moi-même pardon? Je me pardonne tout de suite.
Vous avez dit pour la teshuva, il y a 3 types de teshuva, dont une, c'était la teshuva de joie. Et on s'est fait.
Ça répond pas à ma question. Ma question, hein, à qui je demande pardon?
À Dieu ou à
Saneshama? À Saneshama de qui? C'est-à-dire, je viens voir sur la tombe la personne et je lui dis, je te demande pardon? Est-ce que ça a l'air d'être ça? Et si on te dit, que dit le Rambam? Est-ce que le Rambam dit ça? J'ai péché envers un tel, et envers Dieu et envers un tel. À qui je demande pardon?
Envers Dieu et envers un tel.
Non, ça je dis que j'ai péché envers Dieu et envers un tel. À qui je demande pardon? Je dis ça en présence de 10 personnes. En fait, je ne fais que leur dire. Je leur annonce, vous savez, vous, les 10 personnes ici présentes, j'ai péché envers Dieu et envers un tel. C'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il dit que je demande pardon à la personne? Est-ce qu'il dit, est-ce qu'il révèle? Oui, ça c'est prévu, oui, mais à qui il demande pardon? J'ai péché, oui, c'est vrai. Oui, et envers un tel. Donc ça, c'est ce qu'il a fait. À qui il demande pardon? Mais vous inventez des choses qui ne sont pas écrites. N'inventez pas des textes. C'est un grand principe. Pour savoir ce que dit la Torah, il faut lire la Torah. Pour savoir ce que dit le Rambam, il faut lire le Rambam. Le Rambam ne dit pas ce que vous dites. Il ne dit pas qu'on s'adresse à la personne morte. On s'adresse aux 10 personnes vivantes que j'ai amenées à côté de la tombe. Et je dis à ces personnes vivantes que j'ai péché envers un tel. Il n'est pas dit que je demande pardon. Essayez de voir le texte, bon flanc. Est-ce que le texte dit que je demande pardon? Non. Pourquoi je dis ça? Comment? Hein?
Donc il n'y a pas de teshuva.
Si, il y a teshuva. Il doit faire teshuva, ça c'est son histoire. Qui pour avec le vidouille? D'accord?
Donc ça c'est un vidouille.
C'est pas un vidouille.
Il dit, je reconnais,
il ne demande pas pardon. Le vidouille, on avait vu, ça demandait, c'était également demander pardon. Mais non, il ne demande pas pardon, parce que si j'ai fait un péché envers mon prochain, je dois demander à mon prochain son pardon, n'est-ce pas? Là, je dis, j'ai péché envers un tel, et je ne lui demande pas pardon. Non, c'est pas ce qu'il a écrit. Simplement, c'est un devoir supplémentaire. Le devoir, c'est d'amener 10 personnes et de leur dire, j'ai fait ça. D'accord? Ce devoir supplémentaire n'a rien à voir avec le fait de demander pardon à un mort, parce qu'un mort n'est pas là pour entendre. Ben oui. Mais non, ce que je vous dis là, c'est, ce n'est pas ce que disent les Tosfot. Les Tosfot disent qu'on demande pardon aux morts. Pourquoi? Parce que la présence de 10 personnes amène la Shekhina, et à cause de la présence de la Shekhina, le mort pardonne. Mais faites bien attention, c'est une interprétation des Tosfot, pas du Rambam. D'accord? Ve'im aya chayav lo mamon, et s'il lui devait de l'argent, yarziro liorshav, il doit le rendre à ses héritiers. Lo aya lo yoresh, et s'il ne sait pas quel est son héritier ou s'il y a un héritier, yarnihennu beveddin, il doit le laisser au tribunal. Veitvade, et après il fait le vidouille. Le vidouille ne se fait pas en présence des 10 personnes, ni en présence du tribunal. Il le fait envers Akadosh Baruch Hu. Vous avez compris la différence? Bon, simplement, il doit laisser cet argent au Beddin. C'est-à-dire, il est à la disposition du Beddin. Oui?
À quoi ça sert de faire une déclaration comme quoi il a fauté, si après, de toute façon, il va faire le vidouille? C'est-à-dire qu'en fait, cette déclaration n'est pas office de vidouille, mais de demande pardon?
Non, ni l'un ni l'autre. C'est une déclaration qui a pour but de lui faire honte, pourrait-on dire. D'accord? C'est une manière d'expurger la chose. D'accord? Ça fait partie de sa capara. D'accord? Donc ça, c'est pour le deuxième chapitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons fini le deuxième chapitre. Ce qui est assez extraordinaire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On fait le troisième. Allez. Chapitre 3. Alors, le chapitre 3 nous entraîne dans des considérations théologiques. D'accord? Hein? Oui. Ou bien des choses qui ont un rapport avec la providence, la Hashgaha. Kol echad v'echad ibnei Adam. Chacun des hommes. Yesh lo zechuyot ve'avonot, a des mérites et des péchés. Tout homme. Mi shezechuyotav yeterot al avonotav, tzadik. Celui qui a plus de mérites que de péchés est juste. Ou mi shezechuyotav yeterot al zechuyotav, racha. Et celui qui a plus de péchés que de mérites est un méchant. Mechetza le mechetza, si c'est moitié-moitié, benoni, il est donc moyen. Donc si j'ai fait dans ma vie une cinquantaine de péchés et que j'ai fait 60 choses méritoires, je suis un tzaddik. C'est pas un tzaddik dans le sens absolu du terme, c'est un tzaddik par rapport à son jugement. Ça veut dire quoi être tzaddik par rapport à son jugement? C'est qu'on est acquitté au tribunal. D'accord? Vechen la Médina, de même pour une cité. Oui. Ça veut dire que... Oui, ça veut dire que on reste vivant. C'est le tribunal d'en haut. C'est-à-dire, si je suis un rachat, je suis zigouillé par la providence. Tandis que si je suis un tzaddik, on me laisse la vie sauve. D'accord? Vechen la Médina, de même la cité. Si les mérites de tous ses habitants sont plus abondants que leurs péchés, elle est appelée tzaddeket. Mais si leurs péchés étaient plus abondants, à réseau Recha, c'est une cité méchante. Et de même également pour le monde dans son ensemble. C'est-à-dire si le monde est majoritairement coupable, il est rachat. Majoritairement méritant, il est sadique. Qu'est-ce que ça peut nous faire? C'est la suite qui est importante. Adam she'avonotav merubim al zechuyotav. Un homme qui a plus de mérite, non, qui a plus de péché que de mérite. Miyad umet berisho. Il meurt tout de suite dans sa méchanceté. Shenehemar al rov avoner, ainsi qu'il est dit, à cause de l'abondance de ton péché. Vechen medina she'avonotea merubim. Et de même, une cité qui a plus et qui a abondance de péchés. Miyad yovedet est détruite tout de suite. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, Zaakat Sedom va amora ki rabba. Le cri de Sodome et de Gomorre est abondant. Vechen kol haolam kulo. De même le monde entier. Im ayu avonotei merubim miyad hem nishratim. Si les péchés du monde sont plus abondants, le monde est immédiatement détruit. Shenehemar, ainsi qu'il est dit, Vayar Hashem ki rabba ra'at adam ba'aretz, et Dieu a vu que le mal de l'homme était abondant sur la terre. Alors c'est très simple, si vous voulez savoir si bientôt le monde va être détruit ou pas, vous avez qu'à faire la liste des comportements des hommes. Si vous avez une statistique, et si vous découvrez que la majorité est pécheresse, alors attendez-vous à une catastrophe à l'échelle de la planète. D'accord? Si vous voyez que les mérites sont plus abondants, vous êtes tranquille.
Et votre avis, c'est quoi?
Ben, on n'a qu'à vérifier. Nous savons que lorsque ça a été dans le sens de l'abondance du mal, il y a eu le déluge, je crois. Bon.
Il y aura des déluges.
Plus de déluge d'eau. Un déluge de feu est tout à fait réalisable. Aujourd'hui, on peut en un quart d'heure détruire le monde entier par le feu. Il suffit d'appuyer sur les boutons correspondants. Ouais. Veshikulze. Hein. Alors maintenant, comment est-ce qu'on sous-pèse? C'est-à-dire qu'il faut dans ce cas-là faire, il faut peser dans la balance. Vous connaissez cette image de la balance, de la justice? Veshikulze eno lefimian asruyot vaavonot et la lefigodlan. Mais ce calcul ne se fait pas en fonction du nombre des mérites et des péchés, mais selon leur grandeur. Il y a un mérite qui l'emporte sur plusieurs péchés. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Yan Nimzabo Davartov, puisqu'on a trouvé en lui une bonne chose. Viesh Avon, Shiukeneget Kama Zechuyot, il y a parfois un péché qui l'emporte sur beaucoup de mérites. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vechote Echad Yabed Tova Arbe, que par un péché on peut perdre beaucoup de biens. Alors donc, dans ce cas-là, ça complique la chose. Je ne dois pas simplement calculer le nombre de péchés ou de mérites. Je dois également évaluer la valeur de chaque péché, de chaque mérite. Ça, ça devient très difficile. Comment est-ce qu'on peut connaître ? Oui, mais qu'est-ce que dit la Torah ? La Torah, elle te dit, parfois, par exemple, tu dis à quelqu'un, je te trouve très moche. Ce péché, dans un certain contexte, peut être minime, dans un autre contexte, peut être très grave. Ça dépend de beaucoup d'autres paramètres. Alors, le Rambam nous rajoute ici une phrase très importante. Ve'en shoklim ela bedaato shel el deot. On ne pèse que par la connaissance qu'en a le Dieu des connaissances. Ve'hu ayodea. Et c'est lui qui sait. He'ach orim azruyot keneged avonot. Comment évaluer les mérites par rapport au péché? Ce qui fait que, quand vous avez un discours rabbinique, dans lequel on vous dira, ça s'est passé à cause de la transgression du Shabbat. Ou bien, ce mérite, c'est parce qu'on a donné de la tzedaka. Est-ce que ce discours est légitime? La réponse est non. Le Rambam te dit, tu ne peux savoir la manière de faire ce calcul que par le biais du Dieu des connaissances. Oui.
Vous voyez l'histoire où il y avait la femme qui a donné de sa nourriture à son mariage au pauvre et que finalement elle a tué le serpent.
Oui, la fille de Rabbi Akiva, oui.
Donc on comprend de là que, étant donné qu'elle a donné la tzedaka, alors elle a été sauvée.
Oui.
Donc on peut les calculer.
Il y a des cas exceptionnels. D'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Chaim Banim.